Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, un ami, physicien, ancien prof, pilote, conférencier, musicien, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles.
Bonjour Maxence, bonjour tout le monde. Après avoir fait la première partie de cette émission, dont le titre était, je vous rappelle, « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» ou « La fabuleuse histoire de l'univers », en fait, j'ai traité qu'une seule partie, c'est-à-dire le quelque chose. Je vous ai donc décrit l'univers, disons, une espèce d'instantané, où je parlais, disons, des acteurs de la pièce de théâtre univers, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, les amas d'étoiles, les gros amas d'étoiles qu'on appelle des galaxies, les amas de galaxies et au-delà, etc. Tout ça dans un immense vide tellement vaste que je vous rappelle, il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la Terre. Et ensuite, l'autre chose, c'est que pour aller voir notre étoile voisine, il faut des milliers d'années avec nos vaisseaux spatiaux actuels. Donc actuellement, on peut dire que vraiment, l'univers est immensément vaste, rempli d'immensément de quantités de vide. Alors, je vous ai parlé donc de quelque chose. Plus tard, on parlera quand on attaquera le côté philosophique et les questionnements de toute cette histoire. Qu'est-ce que c'est que rien ? On en reparlera un petit peu plus tard. Et aussi, le troisième aspect du titre, c'était l'histoire de l'univers. Quand on parle d'une histoire, il y avait un avant et un après. Donc, je vous raconterai le moment venu. La fabuleuse histoire de l'univers, c'est-à-dire son commencement, s'il y en a eu un, et sa fin, s'il y en aurait une. Alors aujourd'hui, on va quand même attaquer la deuxième partie qui s'appelle, rappelez-vous, observer l'univers les yeux fermés. En fait, c'est un paradoxe, c'est assez stupéfiant. Comment, étant si petit sur une si petite planète, avec des instrumentations extrêmement simplifiées, nous pouvons comprendre et remonter l'histoire de l'univers et puis de savoir de quoi il est fait et comment il est fait. Bref, toute cette histoire, c'est une histoire assez magique. En fait, l'histoire commence il y a plusieurs milliers d'années, il y a plus de 3000 ans, chez les Grecs, où les philosophes, philosophie, c'est aimer la sagesse. Et donc à ce moment-là, plusieurs personnes, plusieurs individus étonnamment brillants en avaient un peu marre des mythes, des légendes. Et ils décidèrent un peu de regarder un peu tout ça à travers la raison. C'était le début, disons, de la raison, c'est-à-dire essayer de comprendre l'univers, essayer de comprendre l'observable, tout ce que l'on peut observer avec nos sens et surtout la déduction avec notre cerveau. Alors à cette époque-là, les premiers philosophes commencèrent à regarder, observer et déduire. Les premières observations étaient assez étonnantes. Plusieurs philosophes de cette époque estimèrent que le monde était fait de quatre éléments. Les quatre éléments, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air, le feu. C'était relativement simple, mais extrêmement brillant, dans la mesure où en observant autour de nous, on s'aperçoit que les choses poussent sur terre avec de l'eau et qu'il fallait de l'air et surtout de la chaleur du soleil. C'était une bonne intuition. À ce moment-là aussi, il y avait un philosophe assez extraordinaire qui s'appelait Empédocle. Empédocle posa le problème de l'existant et du non-existant. Le monde était fait de choses existantes et non-existantes. Et là apparut le premier paradoxe fondamental et qui perturba l'humanité et qui continue à la perturber. L'existant, c'est donc tout ce qui nous entoure, qui était d'ailleurs fait à ce moment-là, on pensait, de ces quatre éléments, et surtout le non-existant. Le non-existant nous perturbe, évidemment. La mort, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, comment, etc. Or, le simple fait de penser au non-existant donnait une existence au non-existant. Premier paradoxe fondamental. puis un peu plus tard, un autre philosophe et d'autres philosophes pensèrent que finalement, les choses, la matière, étaient faites de choses insécables. C'est-à-dire qu'on pouvait casser la matière jusqu'à l'ultime, on pouvait la casser jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'était atomus, l'insécable. C'était la notion d'atome. C'était extrêmement brillant à ce moment-là. Cette idée fut reprise plusieurs siècles plus tard, puis améliorée, puis on en reparlera. Et un peu plus tard, dans les mêmes périodes, Aristote rajouta un cinquième élément. Donc, la terre, l'eau, l'air, le feu, et le cinquième élément, c'était, il l'a appelé la quintessence. Le cinquième élément, vous vous rappelez du film? Dans le film, la quintessence, c'était l'amour. Et dans la réalité, Aristote proposait le cinquième élément comme étant le lieu où tout est, c'est-à-dire ce qu'on a appelé beaucoup plus tard l'espace-temps. Donc c'était extrêmement extraordinaire de déjà il y a 3000 ans d'essayer de clarifier un petit peu la notion de quoi sont faites les choses qui nous entourent, et nous-mêmes d'ailleurs. Mais dans la théorie d'Aristote, on était dans une théorie géocentrique, c'est-à-dire qu'au centre de tout ça, il y avait la Terre. La Terre, puis au-delà, l'eau, puis l'air, puis le feu, l'endroit où se trouvait le Soleil, les planètes, toutes les planètes qui ont des noms de Dieu à ce moment-là. Puis au-delà, il y avait ce qu'il estimait être le lieu où était le moteur de tout ça. Enfin, tout ça c'est relativement simplifié et vulgarisé, disons. Hein. Mais c'était assez étonnant de se servir de son cerveau et des déductions logiques pour appréhender la réalité. Puis, c'est au niveau du Moyen-Âge, déjà c'était très, très bien accepté dans la mesure où géocentrisme voulait dire que la Terre était au centre de l'univers et c'était l'image parfaite de, disons, du dogme religieux qui estimait que l'homme était le centre, était ce qu'il y avait de plus beau, ce qu'il y avait de plus fort. Puis, bon, il ne fallait pas sortir trop de ce dogme parce que plusieurs personnes qui essayaient encore d'utiliser la raison et l'intelligence en étant contre ce dogme avaient des ennuis sérieux. Hein. Sans rentrer dans les détails, vous en avez peut-être entendu parler. Puis plus tard, on démontra définitivement que la Terre n'était plus au centre de l'univers. Le Soleil était au centre, les planètes tournaient autour. Bon, bah, on était bloqué là déjà, c'était pas mal. Donc, on perdait notre place de supériorité. Puis bien plus tard, grâce aux travaux de mathématiciens et physiciens, on découvrit que loin de là, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, que la Terre n'était pas au centre, le Soleil n'était pas au centre. Le Soleil était une étoile parfaitement banale qui tournait autour d'une galaxie parfaitement banale, dans un endroit perdu de cette galaxie, entourée de milliards et de milliards d'autres galaxies. Donc là, soudainement, notre position anthropocentrique a perdu de sa valeur. Donc en fait, observer l'univers les yeux fermés, ça veut dire utiliser son cerveau et l'observation. Parmi les grands qui utilisèrent leur cerveau pour essayer de démontrer, car pour essayer d'arriver à une vérité, il faut que cette vérité soit démontrée, qu'elle ne soit pas un dogme imposé par des penseurs, des puissants. Donc démontrer, ça a été, disons, la première avancée vers la recherche de la vérité. Parmi les grands, bien sûr, vous avez tous entendu parler de Newton qui décrivait d'une façon relativement simple mathématiquement, enfin relativement simple dans certains cas, mais extrêmement compliquée dans d'autres, toutes les observations que l'on pouvait faire de toutes les planètes qui tournaient autour du Soleil. Les prévisions de sa théorie étaient quasiment pratiquement parfaites. Donc sa théorie avait de très fortes chances d'être, disons, très très proche d'une certaine vérité, de la réalité. Pour vous donner un exemple de la finesse de cette théorie et des prédictions qu'elle pouvait faire, évidemment, on pouvait parfaitement connaître les positions des planètes à n'importe quelle date, du futur ou du passé, mais par exemple, une des informations les plus étonnantes, c'est que les horaires de marée sont calculés grâce à cette théorie, la théorie de Newton, et on est capable de prévoir l'horaire des marées sur la planète entière pour des milliers d'années qui viennent. Donc, cette théorie était relativement incroyable. Donc, avec cette théorie, on pouvait prévoir. chose qu'on ne peut pas faire avec un dogme, puisqu'à chaque fois, les observations ne correspondaient pas toujours aux idées, disons, préconçues. De nombreux physiciens améliorèrent cette théorie en poussant un petit peu plus les calculs pour essayer de comprendre les petites perturbations que l'on pouvait voir dans les trajectoires des planètes, des choses comme ça. Donc on améliorait sans arrêt grâce à des mathématiques élaborées, au moins d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de nous dans notre environnement le plus proche, c'est-à-dire dans le système solaire. Et aller par exemple avec sa comète prédit le retour de cette comète, mais vraiment quasiment, si je peux me permettre, à heure fixe. C'était donc le succès de la théorie par rapport au mythe et par rapport au dogme. Puis peu à peu, en observant, d'abord on commençait par observer et essayer de comprendre après, de mathématiser, c'est-à-dire d'essayer de trouver des lois qui permettaient de prévoir. Donc on s'approchait grâce à ces lois qui étaient découvertes a posteriori, c'est-à-dire on observait et on trouvait des lois. Et on regardait, ça marchait, super, donc la théorie avait l'air pas mal, mais après l'observation. Mais en fouillant toutes ces théories peu à peu, le cerveau humain, en rentrant dans les détails de ces théories extraordinaires, en fouillant ces théories, disons, avec plus d'acuité, on arrivait à prévoir certains phénomènes qui n'étaient pas encore observés. Ça, c'était encore une nouveauté. Donc, je vous rappelle, l'observation, on essayait de l'adapter avec les théories. En fouillant la théorie, on prévoyait certaines observations qui n'avaient jamais été faites. Par exemple, en prenant un exemple relativement simple, on découvrit que la planète Mercure, la première planète qui tourne autour du Soleil, elle tournait d'une façon relativement bien prédite par les lois de la gravité de Newton, mais le plan de cette orbite ne tournait pas tout à fait rond. Le plan était un petit peu oscillant sur un tout petit angle. Et la finesse de l'observation à ces époques-là était telle qu'on observait 17 secondes d'arc. Alors je vous rappelle qu'une seconde d'arc, c'est 1/3600 de degré, c'est-à-dire c'est infime. L'observation montrait qu'il existait une petite déviation de 17 secondes d'arc par siècle. C'est-à-dire qu'il fallait que les observations soient très fines. Et les calculs, qui étaient puissants et extrêmement élaborés, prédisaient un petit écart angulaire d'une quarantaine de secondes d'arc, ce qui était relativement infime par rapport à l'observation. Bon, on a laissé tomber, on a dit « Ah, c'est rien du tout, c'est peut-être l'observation, puis c'est tellement insignifiant que finalement, bon, on laisse tomber ». Et finalement, un petit peu plus tard, au début du siècle, un mathématicien physicien de génie, Albert Einstein évidemment, grâce à une théorie complètement nouvelle, qui ne détrônait pas la gravitation de Newton, mais qui l'améliorait dans un certain sens, et là, elle prédit exactement la quarantaine de secondes d'arc qui était observée. Donc là, d'un seul coup, c'était un succès phénoménal. Là, évidemment, pour en parler un tout petit peu, la relativité générale par rapport à la gravitation de Newton était un petit peu différente. Le problème, c'était justement ce fameux cinquième élément, c'est-à-dire l'espace-temps. L'espace, et on l'a toujours pensé comme étant un lieu, disons, perpétuel, permanent. L'espace entre les choses, c'était quelque chose de inaccessible et permanent, c'était un lieu où les objets étaient. Einstein démontra que non, justement, cet espace était dynamique, c'est-à-dire il était malléable, c'est-à-dire qu'on pouvait le tordre et éventuellement l'étirer. Et il démontra mathématiquement, uniquement mathématiquement, sans observation particulière, que cet espace-temps était le lieu où tout était et que ce lieu était dynamique, on pouvait le tordre. Pour vous donner une idée, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Newton l'a parfaitement décrit, ainsi que tous les savants suivants l'ont parfaitement décrit, une orbite quasi-circulaire, une certaine force qui attirait la Lune vers la Terre, la force de gravitation, et puis point final, voilà, c'était une espèce de force. Mais bon, il est vrai que c'était extrêmement difficile d'imaginer une force à ce moment-là,
On pouvait très bien imaginer qu'il y avait une corde entre la Lune et la Terre, et on a cherché partout, on n'a jamais trouvé cette corde. Donc c'était un concept extrêmement curieux, cette espèce de force bizarre qui attirait la Lune vers la Terre sans la faire tomber, puisqu'elle tournait autour. La Lune tombe autour de la Terre en permanence, c'est pour ça qu'elle tourne autour. Il existe une force, et grâce à la vitesse de l'objet qui tourne autour, eh bien l'objet se met à tomber sans arrêt autour du corps central. Le problème, c'était que cette force devait se transmettre d'une façon instantanée. C'est extrêmement bizarre. Et Einstein, lui, non, a décidé, dans son cerveau, d'imaginer autre chose. Et en fait, tout simplement, par exemple pour la Lune et la Terre crée autour d'elle ce qu'on appelle un champ de gravitation. Ce champ de gravitation déforme l'espace qui est autour, fait une espèce de creux. Et lorsque la Lune qui va en ligne droite, la Lune va en ligne droite dans ce creux. Essayez d'imaginer encore une fois, peut-être un immense drap tendu. Si vous faites rouler une petite bille sans frottement, elle va rouler d'une façon définitivement droite et sans arrêt. Si vous mettez une espèce de boule de pétanque au milieu, il va y avoir une déformation du drap élastique. Et la petite boule va suivre la déformation de l'espace. Donc Einstein pensait que la matière courbait l'espace. Tout ça, je vous le rappelle, assis au bord d'une table sur un bout de papier. C'est-à-dire, il observe l'univers les yeux fermés, comme tous les autres savants. Et bien sûr, là encore, c'était une théorie, il fallait la soumettre à l'observation. Et de nombreuses expériences ont été faites et évidemment permirent de révéler que la relativité générale, c'était une théorie absolument extraordinaire de conception, de choses complètement dingues, où non seulement l'espace était déformé, mais le temps aussi. Je vous rappelle, tout ça, observer l'univers les yeux fermés, c'est-à-dire que ce ne soit que des déductions logiques du cerveau. Donc les mathématiques furent évidemment un outil absolument fondamental pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Les mathématiques, tout simplement, c'est un outil, c'est un jeu, et hélas, relativement mal enseigné, parce qu'on l'utilise beaucoup plus actuellement pour essayer de sélectionner les gens, pour voir ceux qui ont l'esprit beaucoup plus puissant et rapide en déduction, pour faire marcher la société, la planète, etc. Pourtant, elle est rejetée par tellement de gens parce que sous couvert de difficultés, elle est relativement mal enseignée, et pourtant, c'est aussi beau que n'importe quel concerto de musique ou n'importe quel tableau de n'importe quel grand maître. Pour en revenir un petit peu à Aristote, Aristote fut un des premiers à essayer de comprendre la logique. La logique, en fait, il voulait comprendre un petit peu, simplement, comment notre cerveau fonctionne, comment les raisonnements se font. Alors, pour parler de la logique, c'est relativement simple. C'est tellement évident que, par exemple, la définition première, une proposition logique, est une phrase qui a un sens compréhensif, compréhensible, mais qui est ou vraie ou fausse, mais pas les deux en même temps. Alors, si vous arrivez à trouver une proposition logique qui est vraie et fausse, les deux en même temps, vous pulvérisez les mathématiques. Donc, en fait, à partir de cette petite phrase, vrai ou faux, mais pas les deux en même temps, c'est-à-dire une recherche de vérité, oui, c'est vrai, non, c'est faux, eh bien, les mathématiques sont nées et ça a permis au cerveau humain, justement, d'être un centre de déduction et mis en place quand on essaye de comprendre l'univers dans son ensemble. C'est un outil absolument magique pour regarder ce qui se passe. Voilà, il existe une deuxième théorie, mais on en parlera la prochaine fois, qui est totalement incompatible avec cette relativité générale. La relativité générale est parfaite, et quasiment parfaite, dans le monde de l'infiniment grand. Il existe une seconde théorie, qui s'appelle la mécanique quantique, qui, elle, décrit l'univers dans le monde de l'infiniment petit. Je vous en parlerai la prochaine fois, mais les deux sont parfaitement incompatibles l'une avec l'autre. Donc, lorsque l'on arrive dans des endroits complètement dingues, comme par exemple le trou noir, ni l'une ni l'autre ne fonctionnent correctement. Il faudra trouver une nouvelle théorie qui permettra d'essayer de comprendre, essayer de réconcilier ces deux théories.
Ce voyage vous a plu? Alors n'hésitez pas à partager ce podcast et à en parler autour de vous. Et puis, si ça vous a vraiment plu, laissez une review, un commentaire, ça nous fera, à moi et à Willy, très très plaisir. En attendant le prochain épisode, vous pouvez aller voir tous les autres podcasts de Replay Media et vous verrez, on y apprend plein d'autres choses. Vous pouvez aussi suivre Replay Media sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité et de la sortie de chaque émission. On a hâte de vous retrouver dans un mois pour un prochain épisode de Poussière d'étoiles.